10h45 sur France Culture. C'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Julie Gacon. Bonjour.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Et ce matin, Julie, Boris Johnson est-il sorti de la zone de turbulence?
Oui, cette zone de turbulence qui aura duré toute l'année 2020, surveillée de près d'abord pour la progression des négociations avec l'Union européenne sur le Brexit. Syndicats, fédérations d'entreprises, la Banque d'Angleterre et bien d'autres l'attendaient au tournant. Blâmé par ailleurs pour sa gestion de la crise sanitaire, responsable d'après ses détracteurs des plus de 120 000 morts du Covid officiellement recensés à ce jour, Boris Johnson est néanmoins le premier à avoir présenté un plan de sortie progressif des mesures de restriction, prudent mais irréversible, promet-il. Et les chiffres annoncés hier par les autorités britanniques le confortent. Plus de 20 millions de ses concitoyens ont déjà été vaccinés une première fois, soit près d'un tiers de la population. Bonjour Agnès Alexandre Collier.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes professeur de civilisation britannique contemporaine à l'Université de Bourgogne. Vous avez copublié les partis politiques en Grande-Bretagne avec Emmanuel Avril chez Armand Collin. Alors, pour commencer, pour l'instant, le plan de Boris Johnson avance-t-il, comme il l'avait dit, en termes de vaccination, d'approvisionnement et puis du nombre de contaminations quotidiennes?
Oui, il semble que le plan annoncé, en tout cas, avance plutôt bien. Je crois d'ailleurs que les sondages sont plutôt favorables à Boris Johnson en ce moment. Depuis longtemps, je crois qu'il est passé au-dessus des 45% d'opinion favorable. Donc, c'est bien la preuve que, en tout cas, le plan qu'il souhaite a l'air de plaire aux Britanniques, a l'air de convenir aux Britanniques, et donc attendons de voir effectivement si sa campagne se poursuit comme il le souhaite. Mais comme vous l'avez annoncé, il a déjà 20 millions de personnes qui ont été vaccinées, et puis un plan de déconfinement qui devrait être mis en place avec l'ouverture des écoles le 8 mars et aboutir, si tout va bien, en juin avec un déconfinement total.
Voilà, tous les plus de 50 ans doivent avoir, selon ce plan, reçu une première dose d'ici au 15 avril, puis tous les adultes d'ici fin juillet. Le nombre de contaminations et de morts est en repli depuis quelques semaines maintenant. Les sondages favorables à Boris Johnson, dites-vous, est-ce que les universités sont toujours fermées? Une partie des étudiants des campus, par exemple, de Manchester et Bristol, toujours en grève?
Oui, je crois, oui, en effet. Et je crois que le problème de Boris Johnson, ça a été la gestion des étudiants, notamment au cours du premier confinement, puisqu'on sait qu'il a supprimé les résultats d'examen et qu'il a finalement utilisé une sorte d'algorithme pour déterminer l'entrée des étudiants dans les universités, ce qui a laissé un grand nombre d'étudiants sur le carreau. Donc il y a quand même un énorme problème, en tout cas au sein de la population étudiante, et on ne sait pas finalement ce qui va se passer pour cette année. Et la plupart des étudiants espèrent que finalement leurs résultats, puisque les examens devraient être supprimés, leurs résultats ne feront pas l'objet, en tout cas, d'un tri par algorithme.
Voilà,
et qu'ils pourront être sélectionnés de manière plus juste.
Ils demandent aussi une réduction des loyers universitaires, des frais de scolarité. Ça a été très difficile pour les étudiants anglais aussi, hein, comme partout en Europe. Il se trouve que parmi les régions les plus touchées ces derniers mois par la pandémie, il y a celles pour lesquelles Boris Johnson avait concentré ses efforts de communication politique et de promesses pour les élections législatives de 2019, notamment ces régions du Nord qui d'ailleurs ont, et c'était très nouveau, majoritairement voté pour le Parti conservateur. Comment les confinements très stricts qui leur ont été imposés ont-ils été reçus par les habitants et surtout leurs élus?
Alors, pas très bien. En effet, ça place un petit peu le Parti conservateur dans une position difficile, comme vous l'avez rappelé, puisque Boris Johnson a réussi à conquérir ce qu'on appelle ce mur rouge, en fait, de circonscription historiquement travailliste, hein, qui va des Midlands au nord-est de l'Angleterre, et qui ont basculé conservateurs pour la première fois de leur histoire, avec un grand nombre de jeunes députés qui ont été soigneusement sélectionnés justement pour représenter ces circonscriptions. Et le Parti conservateur s'est engagé justement dans le manifeste de 2019 à investir massivement dans les services publics, à construire cette fameuse ligne de chemin de fer entre Leeds et Manchester, et donc à investir finalement cette région de l'Angleterre qui historiquement votait plutôt travailliste, qui était un des bastions du Parti travailliste. Donc là, le Parti conservateur, me semble-t-il, est quand même dans une position difficile parce que on sait que des mesures plus strictes ont été prises au moment du premier confinement dans le nord et en particulier dans des villes comme Hull, Blackpool et Manchester. On sait que le maire de Manchester a énormément critiqué la gestion de la pandémie et justement l'imposition de restrictions, d'un confinement à deux vitesses, affectant particulièrement sa ville et puis toute la région du nord. Et donc je pense que là, le Parti conservateur est dans une position un peu délicate, en particulier ces jeunes députés qui attendaient des promesses d'investissement et qui doivent gérer une population, au contraire, mécontente d'avoir été, d'avoir fait l'objet d'une sorte d'expérimentation des restrictions par le Parti conservateur, le gouvernement conservateur. Donc, il va falloir que Boris Johnson réinvestissent ou en tout cas donnent des gages en direction de ces nouveaux électeurs. Et pour le moment, ça ne semble pas être le cas, si ce n'est que finalement le confinement a été adopté partout. Il n'y a pas eu de confinement à deux vitesses et le Nord n'a pas fait l'objet d'un ciblage particulier dans la gestion de la pandémie.
Alors, des promesses déçues, notamment, il était question, c'était dans le manifeste conservateur de 2019, que le Parti conservateur et le gouvernement investissent dans les hôpitaux. Et quand un journaliste a demandé à la télévision à Boris Johnson combien il avait investi dans l'hôpital de Leeds, Boris Johnson était incapable de répondre. Alors des électeurs et des élus conservateurs, disiez-vous, déçus, dont certains d'ailleurs ont fondé des groupes dissidents, distincts. Le Parti conservateur est-il aujourd'hui davantage divisé par la question de la gestion de la crise sanitaire ou par celle du Brexit ?
Alors, que le Parti conservateur soit divisé, ça fait un peu partie de l'ADN, si vous voulez, de l'organisation conservatrice. C'est un parti de masse, donc il a toujours été divisé. Ce qui pose problème, c'est quand le parti n'a pas véritablement de majorité au Parlement et que les groupes en question peuvent véritablement peser sur le gouvernement. C'est pas le cas ici, puisqu'on sait que le Parti conservateur a remporté quand même une vaste majorité,
plus de 80 sièges.
De sièges, plus de 80 dernières élections. Donc finalement, les groupes existent, sont visibles, s'expriment dans la presse, mais ça n'a pas véritablement d'impact, ou en tout cas, ils ne sont pas en mesure d'exercer une pression finalement sur le Premier ministre, comme ça pouvait être le cas pendant le Brexit avec le fameux European Research Group des Brexiteurs, qui était en position de force dans la mesure où le gouvernement n'avait pas de majorité. Donc là, on est dans une situation où le pluralisme s'exprime, où il y a effectivement un grand nombre de clivages, plus autour du Brexit, parce que aux dernières élections, les quelques Remainers qui existaient, il y en avait à peu près 21, ont été soigneusement éliminés par Boris Johnson, au détour d'une procédure donc qui leur a interdit de se représenter aux élections. Donc on a une situation où le Parti conservateur est devenu globalement plutôt proche d'un Brexit dur, d'un Brexit radical, et les nouveaux clivages qui apparaissent sont encore assez assez atténués. C'est vrai qu'on a un clivage entre les pros et les anti-confinements qui se dessine, et notamment pour ceux qui s'opposent au confinement et qui souhaitent un retour de l'activité économique, on voit bien cette espèce de tendance qui existe au sein du Parti conservateur de libertariens qui sont sceptiques à l'égard de cette intrusion autoritaire de l'État dans les libertés individuelles. Donc c'est une tradition qui existe depuis longtemps, mais qui fait pas vraiment le poids par rapport à l'ensemble du Parti conservateur. Et puis il y a surtout ces nouveaux élus qui attendent des gages du gouvernement, ces nouveaux élus du Nord, qui sont de jeunes députés, qui n'ont pas encore des promesses de carrière, donc qui peuvent s'exprimer relativement librement, et qui attendent finalement que le gouvernement tienne ses promesses, puisque de ces promesses va dépendre leur réélection.
Oui.
futur, certainement en 2024. Donc c'est vraiment un enjeu important pour eux et un enjeu stratégique pour le Parti conservateur, parce que c'est quand même grâce à ses sièges qu'il a réussi à maintenir, justement, à se mettre en position de force depuis les élections de 2019.
Merci beaucoup Agnès Alexandre Collier. Il est trop tôt encore pour parler des effets du Brexit officiel depuis 2 mois, jour pour jour, sur ces régions du Nord à qui Boris Johnson promettait de l'emploi, une réindustrialisation, notamment avec cette loi votée en mai 2020 qui mettait fin à la libre circulation des travailleurs en provenance de l'Union européenne et mettait en place un système d'immigration à point pour attirer les plus qualifiés, qui devait donc donner de l'emploi aux Britanniques les moins qualifiés. Merci beaucoup Agnès Alexandre Collier d'avoir été avec nous ce matin, professeure de civilisation britannique contemporaine à l'Université de Bourgogne.